Mabrouk Chetouane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la recherche chez BFT Investment Manager. On va parler avec vous de macroéconomie, avec toujours des questions importantes hein, sur notamment la croissance américaine. Est-ce qu'elle sera au rendez-vous en 2016? Comment évolue votre analyse de la situation sur l'économie américaine?
Alors, il est vrai qu'on aura vraisemblablement un premier trimestre assez en berne finalement, quand on regarde les premiers indicateurs de croissance et d'activité dont on dispose. Néanmoins, il faut garder en tête que les chiffres de PIB ont systématiquement été révisés, par exemple l'an dernier, donc les 4 trimestres de 2015 ont été révisés à la hausse d'une part, et d'autre part, en 2015, on a eu également un rebond très fort au second trimestre qui s'est perduré, enfin, légèrement essoufflé tout au long de l'année, mais qui a permis à l'économie américaine de croître à 2,4% l'an dernier. Et notre scénario aujourd'hui est on table sur une croissance de l'économie américaine d'environ comprise entre 2,1 et 2,2%. Donc finalement, un ralentissement cyclique, pas de récession du tout, un premier trimestre un peu en berne, mais un rattrapage dans les trimestres à venir.
Alors pour la politique de la réserve fédérale américaine, effectivement, ça pose question, on le sait depuis le début. Est-ce que cette économie a les moyens de subir de nouvelles hausses de taux? Est-ce que là-dessus, l'économie américaine, vous diriez, elle est encore un peu faible?
L'économie américaine a subi une crise de très grande ampleur qui a entraîné des changements de nature structurelle, notamment sur le marché du travail. Et effectivement, la grande question, c'est l'inflation, enfin l'augmentation des salaires ne se traduit pas finalement par l'inflation qu'on devrait constater à ce stade du cycle économique. Néanmoins, la Fed, si elle veut petit un reconstituer son arsenal de politique monétaire, si en plus, comme on le croit, l'économie américaine va vers un ralentissement cyclique de plus en plus marqué vers 2017-2018, la Fed a tout intérêt à augmenter ses taux d'intérêt maintenant, c'est notre scénario. Cela dit, la hausse de taux d'intérêt sera bien sûr très graduelle. On voit entre 2 et 3 hausses de taux d'intérêt. Donc à ce stade, l'économie américaine est capable d'encaisser en quelque sorte ce resserrement monétaire qui sera encore une fois de nature très mesurée.
Alors du côté européen, on est dans une autre situation. On voit les déclarations de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, sur les mesures, sur ce qu'il pourrait faire encore en plus. Là, on se dit, il y a eu la baisse du pétrole, il y a eu la baisse de l'euro, mais finalement, est-ce que la zone euro en a tant profité que ça?
Alors, la zone euro aurait pu en profiter davantage, il est vrai, et ça pointe clairement ce que rappelle Mario Draghi systématiquement dans ses conférences de presse, à savoir le défaut, ou du moins le déficit de réformes structurelles. Néanmoins, force est de constater que la croissance européenne est au rendez-vous, elle n'est pas aussi importante, comme vous l'avez souligné, qu'elle devrait l'être, compte tenu de cet alignement des planètes. Néanmoins, on a quand même une croissance qui restera au-dessus de son potentiel, qui devrait vraisemblablement se maintenir au même niveau que celui de 2015, voire peut-être en légère accélération, et ça, on le doit principalement, enfin, en partie, pardon, aux mesures non conventionnelles de politique monétaire. Tout l'assouplissement quantitatif qui a été mis en place par Mario Draghi est renforcé lors du dernier comité de politique monétaire, pardon. Donc tout ceci plaide en faveur justement d'une croissance en zone euro qui devrait être au rendez-vous, en tout cas pour 2016.
Les autres zones économiques, quand on les regarde bien, et d'ailleurs c'est ce qui a inquiété les investisseurs au cours des derniers mois, c'est d'abord la Chine avec cette question de croissance plus faible. Est-ce qu'aujourd'hui on commence à se rassurer vis-à-vis de la croissance économique chinoise ou il y a encore des craintes?
Il y aura évidemment toujours des craintes puisque l'économie chinoise est tributaire de ce qui se passe au niveau du commerce international qui est aujourd'hui en fort ralentissement par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Donc, de facto, on aura une croissance soumise à des chocs externes, donc une croissance soumise à des à-coups. Néanmoins, là encore une fois, les autorités chinoises disposent des moyens pour pouvoir adoucir en quelque sorte l'atterrissage et disposent également des moyens pour relancer leur économie. Donc, on a quelque part finalement une croissance dont on sait qu'elle va ralentir, mais ça, c'est quelque chose de structurel, puisqu'on ne peut pas croître indéfiniment à plus de 10%. Donc aujourd'hui, un taux de croissance compris entre 6,5 et 7%, finalement, est la cible, pardon, souhaitée par les autorités chinoises. Et malgré tout, finalement, une croissance, encore une fois, soumise à des chocs externes et des chocs internes également pour gérer la transition vers une économie plus centrée sur une consommation interne.
Alors, pas si loin que ça, on a le Japon, et là, on se pose des questions sur la suite des abénomiques, des fameux abénomiques, ces mesures économiques qui ont été prises, et on se dit qu'on arrive un peu à la fin et que l'économie japonaise n'a pas effectivement peut-être bénéficié autant qu'on l'espérait au départ de ces mesures.
Alors, il est vrai que de plus en plus, et ça, c'est une thématique qui revient régulièrement, à savoir l'effet marginal, finalement, d'une mesure de politique économique, qu'elle soit budgétaire ou monétaire, sur l'économie. On se rend compte aujourd'hui, par exemple, enfin, le débat autour de la politique monétaire européenne, l'ajout, finalement, d'un QE supplémentaire, est-ce qu'il sera efficace? Au Japon, c'est à peu près le même discours. À savoir, est-ce qu'on rajoute, en rajoutant, finalement, de la politique budgétaire et monétaire en plus, on arrivera à générer ce surcroît de croissance tant attendu par les autorités japonaises et ce surcroît d'inflation par ailleurs, puisque c'est aussi l'objectif, un des objectifs cherchés par les autorités budgétaires, qui permettrait justement de sortir la banque centrale japonaise de cet assouplissement quantitatif sans fin que l'on connaît. Et les déclarations de Kuroda cette semaine, du moins en début de semaine, montrent justement qu'il ira davantage vers plus d'assouplissement quantitatif.
On voit effectivement donc ces questions sur l'effet des politiques monétaires. On a vu que ça avait pu avoir bien sûr des effets sur les devises. On l'avait vu, l'euro face effectivement au dollar. Est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir des mouvements à nouveau sur les devises?
Il peut y en avoir effectivement pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a peu de visibilité encore sur l'action des banques centrales. Même si on sait que la Banque centrale européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir finalement permettre à l'économie européenne d'atteindre cette cible de 2% d'inflation. Du côté des États-Unis, on ne sait pas quel moyen encore de quels moyens elle dispose. Côté États-Unis, on attend effectivement encore plus de clarifications concernant finalement le calendrier de resserrement de politique monétaire qui est encore aujourd'hui incertain. La Banque centrale britannique est soumise à un choc, on va dire, assez potentiellement très important qui est le Brexit. La Banque centrale japonaise également peut également intervenir à tout moment. Donc on a sur le marché d'échange, à cause justement de ces incertitudes banque centrale, pas mal de vents contraires qui soufflent un peu dans toutes les directions et qui pourraient porter des devises dans les directions assez opposées.
Le mot de la fin sur l'allocation d'actifs dans ce contexte-là, on sent bien qu'on n'a pas, sans doute pas la croissance espérée en 2016, telle qu'en tout cas les investisseurs l'espéraient. Est-ce que ça va jouer justement sur l'allocation d'actifs?
Alors, il y a bien évidemment la croissance qui jouera sur la classe d'actifs. Il y a également l'action des banques centrales qui sera incontestablement un pilier, en tout cas pour une classe d'actifs en particulier, qui est le crédit européen, à yield comme investment grade, avec les rachats donc de titres de dette d'entreprise annoncés par la BCE lors de son dernier comité de politique monétaire. C'est clairement une des classes d'actifs qui devrait figurer parmi les champions au cours de l'année 2016. Maintenant, il reste encore un peu de valeur à extraire du côté des marchés des actions, mais là, il faut faire preuve de sélectivité pour ne pas se laisser piéger.
Merci, Mabrouk Chetwan.
Merci.